le mic et l'enclume. Bienvenue dans le mic et l'enclume, l'émission d'Arte Radio qui ne ressemble à aucune autre émission culturelle. Entre le mic et l'enclume, entre le micro et la musique, on trouve quatre amateurs enthousiastes, des amoureux du hip-hop et autres musiques de jeunes. Avec ce mois-ci encore le talent de Lama.
Hello.
De Mike.
Parce que la vie est un prix.
De Mo de Diakité.
Aga de Bonne Année. Elle m'a
tué. Et Labrax.
Aïe aïe.
Avons-nous trouvé de bons albums au pied du sapin ? Profitant que notre dernière émission datait de novembre, les gros vendeurs du rap français ont tous sorti leur album pour Noël et pour pas qu'on puisse les critiquer. Mais c'est sans compter que le Mic et l'Enclume sera désormais mensuel, mais pas toujours sensuel, et que de toute façon, on est là pour écouter la musique et en parler en profondeur. Alors on a vu entre autres débouler fin 2015 les derniers opus de Booba, de Rof et de Joey Starr pour parler des plus gros. Premier bilan, la parole est à l'ami des jeunes, Lama.
Rof, j'ai vraiment été surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce type d'album parce qu'il y a vraiment... Enfin, j'aime pas dire ça parce que je ne suis pas du genre à dire le rap à l'ancienne, ça m'énerve un peu. Mais il y a un retour à ce que Rof faisait de très bien. Il y a déjà quelques albums précédents. Il y a notamment en plus un feat avec La Crime dans La Crème de la Crème que j'ai trouvé très très bon.
Pas de cours de récré dans l'école de la street. Ils n'ont foutu la merde que dans leur slip. C'est R.O.H. de guerre featuring la crème. C'est peut-être à nos couilles, c'est la crème de la crème.
C'est quoi ?
C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème.
Et je me suis surprise à secouer ma tête en écoutant Ranf, et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est classique, c'est propre, il y a un flow plutôt fluide, il y a 19 morceaux, ce qui est quand même assez gros pour un album, et je pense que vraiment, sur les 19, il y a vraiment rien à jeter. Pour moi, il est abouti. J'étais sûr que ça allait vous énerver.
C'est
sûr que vous alliez pas être.
Ils trépignent là, ils trépignent, tu les vois, ils rougissent, la fumée sort des narines.
Et pour moi, c'est l'album à mettre.
Déjà, t'as voulu nous vendre son téléphone la dernière fois.
Je sais, mais c'était moi. C'était moi qui disais c'est une horreur, Rof, il sert à rien, il faut plus en entendre parler, il enlève son bracelet électronique en ligne, enfin, ce mec ne sert vraiment à rien. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien.
Non,
étonnamment, je suis étonnée.
Bon, vas-y.
Bon, c'est bien. D'un côté, c'est vrai que l'addition est moins salée que pour la Quanta, donc c'est déjà mieux que les deux précédents albums. Il y a un des morceaux déjà comme en 46 ou je ne sais plus combien là.
Ces morceaux
sont longs, il n'y a pas de refrain. Il y a deux morceaux qui ont été mis en avant pour l'album, ils sont super longs, pas de refrain. On a l'impression que le mec est en train de se vider comme si, je sais pas, il était posé dans le canapé du psy et il raconte sa life. Moi perso, je me suis dit, ouais non, t'es talentueux mais t'aurais dû en trop couper un peu, tu vois, pas trop en donner dès le début, parce que j'ai l'impression très rapidement qu'il est à bout de souffle. Dès que j'ai écouté ces deux morceaux-là, je me suis dit, bon, je vais prendre un peu de repos et je vais écouter la suite après. Ça va pas transcender.
Moi, j'ai écouté attentivement. Parce que déjà, comme en 46, c'est assez tôt dans l'album, il se passe quelque chose. Déjà, à cet endroit-là.
C'est des roues arrière à gratter, sinon pourquoi nous parler de compète hein. Se prend les gouttes et devant YouPorn les a rendus trop bêtes hein. Apprendez-moi, c'est l'accouplement de la belle et la bête. T'as beau kicker sale, moi, j'ai pas validé, caché que t'es une tapée.
À un moment... Il y a un peu un genou à terre, parce que ça fait longtemps qu'on a été tenu par le clash Boubarov. Il dit quand même, t'as beau kicker sale, moi j'ai pas validé car je sais que t'es une tapette. Mais déjà dans un clash, tu peux jamais dire qu'un gars kick sale, tu peux jamais reconnaître le mérite d'un autre. Ça c'est pas possible. Du coup, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, je suis curieux de voir ce qu'il va dire après. Donc moi j'ai trouvé dans l'album, effectivement, c'était moins pire. Pas beaucoup de bonnes surprises dans l'ensemble, à part sur peut-être deux morceaux quand même, My Nigga, My Rebeu, dans le discours surtout.
Renoir, t'as peur des Rebeu, Rebeu, t'as peur des Renoir. Moi je crains ni l'un ni l'autre, vous faites pipi, caca, tous comme moi. Les cons ne pensent qu'à me diviser, tous stigmatisés, sans tubaviseux, tous fusillés dans les débats téléviseux. On sent au fini nos grands-pères sortis des tranchées, My Nigga.
Pas forcément après sur la forme et sur les mots qu'il emploie toujours, et surtout dans Street Bourgeoisie. Pour moi, c'est un des meilleurs morceaux qu'il a pondu depuis très longtemps.
Bah, au moins, oui, il y a l'effort de parler de quelque chose.
Ouais, voilà, ça va faire remonter le niveau.
Leur manège politique, je l'ai capté sans réseau. J'en sais peut-être un peu trop, ils vont venir me dessous. Je ne fais qu'éplucher la banane de la garde des Sceaux. À Soul, je suis calaché, plus sanguin que tes vaisseaux. Eux,
défonce vaisseau. Nous on te rit au nez. Souvent l'oseille, on coupe la pêche, je te raccroche au nez.
C'est un bon morceau de rap. Pour moi, c'est un des meilleurs roughs depuis, depuis au moins 5-6 ans.
Ouais, on reconnaît sa patte. Là, on se dit voilà. C'est du rough et ouais, okay. Là, c'est bon.
Donc après, voilà, le problème, c'est toujours la même chose. C'est, pour moi, c'est l'instru et la forme. Hein. Voilà, donc. Pour moi, on est toujours en 2000, des boucles de synthé prises uniques. Donc ça, j'en peux plus.
Dernièrement, Mike, je crois qu'il veut se muscler sur lui.
Mike. Bon, déjà, pour revenir à ce que tu disais, le genou à terre, très rapidement, Rof, il a toujours avoué que Booba avait apporté beaucoup au rap français. Tu vois ouais. Il a toujours dit, Booba, il a apporté beaucoup, j'ai jamais nié ça, etc. Mm-hmm. Donc, je pense que là, il est toujours cohérent avec le discours qu'il a toujours tenu, en fait.
Ah, voilà. Ouais.
Donc, okay. Juste pour fermer ça. Et par rapport à l'album, moi, j'ai été déçu au niveau des prods, des choix de prods. Mmh. Franchement, ça tourne rond. C'est pas très intéressant. Ça ne le met pas en valeur, en fait. Par rapport à ça, moi, le morceau vraiment qui, pour moi, sort un petit peu du lot, c'est Vitry sur N.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié celui-là.
Vitry sur N, là, je retrouve le rough. Tu vois, le rough qu'on aime,
le
fort
de
en punchline. Voilà, qui est puissant, qui a du flow, etc.
Exact.
Avec, tu sais, ces fins de rimes, là, où il monte, là.
Vitry Barbès, Unibartati. Je mange au foyer, rends hommage aux dentistes. Éprouvé et croyant, jamais les bras baissés. Entre parloir et procès, l'éveillé et les décès. Les larmes de sang se retiennent de couler, ne jamais se rabaisser. Devant les poulets, on confond le comique au KFC.
Là, il est fort dans ce truc-là. Ouais. Mais quand il essaie de faire du vocodeur avec un refrain, une espèce de. Il y a un morceau là où le refrain c'est Allo, allo, où sont les mecs bien ? Nanana. Non, mais c'est pas du rough, ça.
Ça fait du kick à l'ancienne, mais c'est plus valable aujourd'hui par rapport à ce qu'il fait,
voilà,
tu vois. Et par rapport à ce qu'il nous a montré jusqu'ici, et même dans son vécu, dans ce qu'on a vu à la télé ou sur les sites, c'est plus trop raccord, quoi.
En fait, il s'épuise. Il essaye, il s'accroche. Mais je pense qu'il faut qu'il change complètement de... Pas de style, mais qu'il s'adapte, en fait.
Moi, je propose que désormais, on l'appelle bof.
Non, c'est pas
extraordinaire. C'est vrai qu'on a déjà entendu ça. Et c'est vrai que les prods, par rapport, même moi, j'aimais bien ce qu'ils faisaient en mode, tout ça, c'était
le typique.
Mais le mec a défini un style. Attends, ça a été énorme. Il y avait vraiment quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est musicalement ce qui tourne. T'as l'impression que c'est au kilomètre, quoi, qu'il les achète en gros. Et il y a peu de.
Et même son compère, excuse-moi, son compère Imka, avec lequel il était un petit peu en bif à l'époque, avec l'histoire de Booba, il m'a trahi, etc. Rimka, je sais pas si on parlait de son album, mais moi je trouve qu'il a surpassé Rof sur son album. Je crois que c'est son meilleur album, le meilleur album qu'il a jamais fait, Rimka, tu vois ce que je veux dire. Ça colle complètement à la tendance actuelle, et il est beaucoup mieux que Rof au niveau des mélos, au niveau de la musicalité, au niveau de plein de trucs.
Parce
qu'il a
toujours, lui, il a un peu plus touché à tout.
Mais Rof, de toute façon, on l'a déjà dit, il a du mal à changer de costume. De toute façon, même au niveau des attitudes, de l'arrogance, il n'arrive pas à le faire non plus.
On est d'accord. Il y a du mieux, mais c'est pas... Comment s'appelle l'album déjà ?
Rough Game, je crois.
Il sort un autre album, en plus.
Surnaturel à la fin de l'année.
On va en venir, justement, ça nous permet de passer à son meilleur ennemi. L'album donc de Booba, qui s'appelle lui ?
Néronémésis.
Je te tombe sur moi, tombe sur un os. Prie pour que ton gris-gris donne de la force. N'arrivera jamais comme le fit avec prof. 30 000 euros en poste, puis ça me bosse.
D'après mes sources les plus impitoyables, il est meilleur que les deux précédents. Mais est-ce que ça suffit à faire un bon album de Booba
Moi, si j'avais dû offrir un album à Noël, ça aurait été celui-là. Avec ça, en gros, t'offres un nouveau catalogue de vannes. Et puis là, avec cet album-là, franchement, il a rhabillé tout le monde.
Et pas uniquement, il remonte le niveau sur certaines choses, ne serait-ce que par rapport au vocodeur. J'écoutais l'album et il y a eu, par exemple, quand on écoute Neuf de Yveron. Première écoute, je me dis, oh, c'est bon, il me lâche sa soupe avec son vocodeur. Ça m'a saoulé, mais je l'ai écouté. Après, je reviens plus tard dessus et j'écoute vraiment le texte. Je me suis dit, mais c'est un gamin. En fait, il est en train de se... sur tout le monde, là.
Il a une deuxième jeunesse, quoi.
Ouais, il se dit, ouais, bon, les autres rappeurs, je vais vous montrer qu'en faisant du vocodeur, je peux vous faire un texte pointu et me foutre de votre gueule et montrer qu'on peut faire du bon texte avec du vocodeur.
C'est de l'autotune.
Exactement. De l'autotune.
Neuf de Yveron, moi j'ai trouvé que c'est pour la première fois, il utilisait de manière intelligente l'autotune et que le texte était en plus remarquable avec le ton et tout le truc en fait quoi. Donc ça c'était vraiment très intéressant.
Crosby dans la chatte du smic, coup de pire, tourné dans le coin. Bombe nucléaire sur le game, il ne restera que moi et les rats.
Quand je monterai dans l'Aveyron, jamais tu ne me reverras. Inspiré par la musique de ces descendants d'esclaves, ils achètent négro sur place publique, pour eux rien n'est grave. J'ai couronne sur la tête, pourtant c'est le voisin qui a eu la fève. Il n'y aura jamais de trêve, mon numéro du 93.
Ah ben moi, j'ai trouvé en plus qu'on le comprenait Lama. Beaucoup mieux dans cet album. Enfin, on le comprend, il est beaucoup plus clair.
Au niveau de l'articulation.
Ah, ben oui. Mmh.
Tu mettrais une bonne note pour la diction.
Ah, mais je mettrais une bonne note pour tout dans cet album.
Et la diction en deux mots.
Et même
enfin,
moi,
vraiment...
je ne suis pas très fan de l'autotune. C'est le duc, quoi. Il sait faire. Quand il prend quelque chose, il en fait de l'or, quoi. Enfin,
on retrouve un peu l'ambiance de Temps Mort, un peu l'ambiance sombre et déterminée. Ouais. L'ambiance sombre et déterminée en fait de Booba qu'il avait avant, et là malgré tout ce qu'il a mangé, ce qu'il a englouti, l'argent, la réussite, etc., j'ai l'impression qu'il a encore
faim. L'attaque.
Là on a l'impression qu'il a faim et qu'il va en découdre en fait. Donc moi c'est ça qui m'a
moi,
plu.
C'est ce qu'il fait,
oui. Dans la loi du talion, puis tu rigoles avec ses punchlines.
Ouais,
il est trop chaud. Chaque ligne une punchline et de bonnes punchlines bien marrantes, bien grasses, tu vois. Et au niveau des beats, il est toujours dans le, tu vois. Dans la tendance, il est toujours.
Je dirais pas tendance, mais par rapport à son humeur, comme il explique lui-même, c'est qu'il dit j'ai une humeur à telle période, donc toutes les instrus que je vais choisir, c'est par rapport à mon humeur du moment. Mmh. Et l'album sera fait en fonction d'une humeur que j'ai posée, et je prendrai toutes les instrus qui sont en rapport avec cette humeur-là, et tout ce que j'aurais traversé à telle période.
On a toujours
pour ça que ces albums sont bien différents, justement.
Et ils sont assez homogènes, du coup.
Ouais. Voilà. Et ils sont cohérents aussi.
Parfois, ça marche pas, mais quand ça marche pas, ça marche pas du tout. Et là, ça marche.
C'est exactement. Et il y a deux choses aussi qu'il faut. Deux artistes qu'il met en avant dedans, c'est que t'as Damso, comme je disais, dans le morceau Pinocchio, en fait, qui sort punchline en restant tout calme, et à la fin du morceau, on a l'impression, en fin de sa partie, comme s'il jetait sa carte de visite en se barrant et sans regarder le public.
Le rap game n'a plus de kérosène pour le décollage. Mon flow prend le large, le tien prend de l'âge. Pour déstresser, je fais des prises d'otages. De la CC dans du cellophane, la lessive dans tes clips, tu dis que c'est de la cam. Tu me fais chier comme un mec qui te conseille à la salle. Je te nique sur le ring et sur l'instrumental, t'es passé partout comme la chatte de Chaim. Je sais pas si c'est vrai, mais je la baiserai au calme. J'ai matière grise, ta matière fécale. T'as un micro-pénis, donc tu n'es pas de taille. Damso.
Classe. Il y a ça, et il y a le morceau qui s'appelle Zer avec C-Boy qui est signé maintenant chez Booba et qui vient de Mulhouse, qui avait balancé déjà quelques vidéos il y a un an, deux ans et tout. C'était des potes de Mulhouse qui m'ont fait tiens, écoute un mec de chez nous. J'étais là, mais halluciné, le mec, on voit jamais son visage, il est avec une cagoule et tout. Et il l'enchaîne, il est énervé, le garçon. On pourrait croire que ce serait un genre de Old Dirty Bastard français.
J'me tue depuis crème, j'suis toujours hydraté. J'nique ton rappeur préféré juste pour buzzer. Le savoir est une âme droite et illettrée. Chaque pouka va sa façon de balancer. Le jour où j'voudrais plus rien, c'est que j'aurai tout. J'suis protégé par un très grand marabout. J'ai la vitesse d'un fou bacar au marou. Ma mère est mon seul et plus précieux bijou. Y'a que les nuls qui trouvent toujours des prétextes. Madame, midi, soir, négro, je gratte des textes. J'suis plus proche d'un Uber que taxi G7. Les mecs de la patte refusent d'aider ta tête. Fight.
Ok, donc Nero Nemesis, album de Noël. Du Michael Enclume, merci beaucoup. Le troisième ex-gros vendeur qui revenait pour Noël, c'est Joey Starr, et pas tout seul.
Avec Natty.
Joey Starr et Natty. Alors là, je sens l'ambiance retombe d'un cran.
Comment on m'a dit qu'en live
Je te vois comme une fourmi sous une loupe qu'on bulle sans. Je sais, c'est mon style, c'est très condescendant. Alors tiens ta langue, tais-toi quand tu parles, quand tu raves. Ton talon c'est pas faisant la nuit, une cravate. Oh merde, j'ai chié sur la gueule de ton rap de test. Vomis ton gang, je te rap. J'suis hip-hop, manège, je roule, je respire, je mange même couscous. Alors tire-toi, tais-toi, t'es saoul.
Il paraît que c'est bon en live et que c'est pas un album à écouter chez soi.
Ce qui est possible d'ailleurs, Joey Starr, depuis le split, c'est un peu toujours ça.
Et qu'en fait, il joue un peu sur l'ambiance caribéenne. Ils font un peu bouger les gens à droite, à gauche, en bas, en haut. Mais c'est vrai que je suis très déçue.
Je suis pas déçue. J'ai l'impression plutôt que le niveau a augmenté. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Joey Starr, il a fait un album solo.
Joey Starr a augmenté.
C'est qu'il faut se rappeler une chose. Il ne faut pas se rappeler Joey Starr NTM. Il faut se rappeler Joey Starr solo.
Oui,
Joey Starr solo, quand tu entendais La Gazelle ou quoi que ce soit, disais pas c'était au top. Là, quand j'ai entendu, je dis ah, on est remonté d'un niveau. C'est que là, c'est beaucoup plus...
On était bas quand même, parce que les
années on était peut-être bas. Ce que je dis, le constat, c'est qu'on est remonté.
Ouais,
on est remonté. Bah, tant que ça va dans le bon sens, moi, ça me va. S'il continue à faire ce genre de choses-là, on arrivera peut-être à ce qu'il faisait avant. Et encore, il y avait Kool Shen. Là, il le fait avec un... Je ne sais pas si c'est vraiment son neveu, comment il s'appelle, Natty. mais ça reste cohérent. T'as deux générations qui s'entrechoquent, il y a un truc qui est sympa.
Moi, j'ai impossible que je l'offre. Je sais pas qui ça peut faire plaisir, un album comme ça, à part à ceux qui l'ont fait.
C'est quoi le projet, c'est moi, je veux dire en...
Mais c'est quoi le projet, enfin,
bah, le morceau avec Nati, bon, moi, j'ai aimé le concept du sample d'Edith Piaf, là.
Ouais. Ouais. Moi, j'ai détesté, par exemple.
Justement, et j'ai trouvé ça intéressant aussi avec le clip, qui est très, très bien fait.
Ouais.
Alors, ça m'a aidé quand même à écouter le morceau, parce qu'au début, il a commencé à crier, là.
Quand je rentre dans la reine, je suis comme un dieu qui s'amène. Même le fini me mène, je suis impérieux et suprême. La démesure bien huilée, la masse criminelle. Je suis porté, transporté, tu ne cesses d'exister. Tu ne peux que capituler, tu sens mon aura rayonner. Je suis comme une vieille bâtisse, capable de tenir des siècles. Quand je rentre dans la reine.
Bon, j'ai dit bon, il aboie. Je vais essayer d'aller un petit peu plus sur le morceau, etc. Et puis le clip m'a aidé, c'est vrai que le clip est pas mal, le concept avec Edith Piaf et tout, le mélange de la voix rock de Joey Starr et de Nati, un petit peu, Nati d'ailleurs qui a un peu de style, hein, qui... Il pose, rapper, chanter, c'est un peu bizarre son...
Je me sens comme un dieu maintenant, j'ai les deux pieds dans l'arène maintenant. Jeune titan bipolaire, pareil pour la guerre et pire maintenant. Laisse du sang, des larmes et des ruines derrière nous. Grandiose depuis le début, transformé par la foule. Ah bah ouais, je suis dans l'arène. Comme un dieu qui s'amène, le ciel guide mes gestes, les enfers nous mènent. La force est calme et sereine, mon fond règne.
Pour le coup, Joey Starr, il m'a pas choqué comme il aurait pu me choquer avec ses albums solo, Jaguar, etc. Là.
Voilà.
Tu vois ce que je veux dire ?
Voilà.
C'est vrai que t'as raison, c'est je dirais pas un niveau au-dessus. Mais il y a un petit peu croustillant. Tu vois, c'était un petit peu mou. Là, c'est devenu un petit peu croustillant. Ça craque. ça...
Fais attention, tu vas l'appeler chipster.
Sérieux.
Ceux d'avant, ils swingaient comme des biscottes mouillées. Quoi. Ouais, là, il y a un petit peu de crunch.
Ouais, ouais, après, parce que, attends, vous vous souvenez, quand elle a sorti Gazelle au début, moi, je me dis, oh, nouveau morceau de Joey Starr. Je suis là, on va écouter ça. Je l'ai écouté, je me suis dit, c'est une blague. Bon, qui me fait une blague? Je croyais qu'il y avait des caméras chez moi, mais j'ai vu que le gars était sérieux. En plus, il fait un album derrière. Je fais
il partait de loin, mais moi je trouve qu'il est quand même encore un peu loin. Surtout les influences, les choix. Il est à mi-chemin entre la variété et le rap rugueux, les influences, c'est ringard entre Edith Piaf, Bob Marley et la dubstep. C'est pas possible en 2015.
C'est du rappeur quarantenaire.
Dubstep, c'est un truc que personne n'ose y toucher depuis 2013.
Oui, mais peut-être que nous on n'est pas dans cette mouvance là et que personne n'ose y toucher.
Je connais personne.
Mais je pense pas que la France soit le repère pour toute la musique.
Non,
ah non, ça
mais,
c'est sûr.
Joey Starr qui fait un album basé sur le dubstep, alors que c'était un truc qui existe, qui a 3 ans, qui est mort enterré depuis 3 ans.
Ça, c'est pas
et
grave.
Et que la seule alternative, c'est des samples.
La funk
qui
est enterrée depuis 10 ans, il y a bien des mecs qui font du son sur de la funk.
Ça n'a rien à voir.
Donc, on a fait le tour des albums français de Noël. Merci beaucoup, messieurs.
On garde Booba.
Et on garde Booba.
Exactement.
Incroyable, tout arrive. Comme quoi, on n'est pas du tout de parti pris. Et on a gardé un bout de Rof.
Bon, on peut le garder. On peut le garder.
On peut le garder.
On l'offre pas. Non, mais pas au même nombre de personnes.
Voilà.
Beaucoup de Booba et un peu de Rof.
Moi, j'avais décidé de vous faire un petit speech sur Jules. D'abord, j'ai appris auprès des jeunes gens qui prononcent Jules. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, Julien? Comment tu t'appelles? Jules.
Bon, bref. Je crois qu'il dit Jules en plus.
Jules. Ok. Ouais. Alors, j'ai pas envie de parler du rappeur ni du musicien parce que d'une part, vous savez que je n'y connais rien, et d'autre part, je pense qu'il vaut mieux pas en fait. Mais c'est un signe des temps que dès qu'on parle de Jules ou de Jules, tout de suite, on se met à parler du personnage. En fait, on n'a plus que ça à dire. Le personnage a pris des proportions quand même absolument incroyable. Voilà un gars qui est apparu il y a peu de temps. Il a fait son troisième disque d'or en quoi 2 ans. My World qui est sorti pour Noël, donc en autoprod sur son propre label. Il a écrasé toute la concurrence, mais vraiment de loin.
Ouais. Il a fait même mieux que Rick Ross aux États-Unis.
Donc j'ai réfléchi, j'ai rencontré des gens qu'il aime et dans des milieux très très différents. C'est-à-dire y compris, en fait j'ai une intervention sous un pseudonyme aux Arts Déco à Strasbourg et je suis tombé sur un jeune gars qui s'appelle Paul Descamps. Totalement fan. Et en fait, le mec fait un travail, mais en art, où il associe Jules avec le mythe d'Icare. Et donc, il dit en fait, Jules, c'était un footballeur en Crète qui était en centre de formation. Et puis, il a voulu monter à la capitale. Et puis, il s'est brûlé les ailes et il est tombé. Enfin, un truc complètement marrant qui mélange la mythologie grecque avec les étiquettes de foot Panini et le personnage de Jules. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et je me suis dit, finalement, ce mec est... Il est en train de prendre une stature, il commence à incarner quelque chose et pour moi c'est un héros pour une époque sans repère finalement. C'est-à-dire, il me fait penser au succès des héros de la télé-réalité, c'est-à-dire ces gars qui ont rien pour eux à la base et que les gens se mettent à idolâtrer, c'est-à-dire des types qui savent pas chanter, qui sont pas forcément très intelligents, mais que les gens non mais qui font partie de la famille. Et ouais. Tu vois, pour les gamins, pour les familles, la télé-réalité, c'est fondamental pour les gens. T'as des mecs qui croient en Stevie, tu vois, par exemple, ce qui paraît bon un truc de ouf.
On est un peu loin, mais t'étais dur.
Loan, si tu sais pourquoi, parce que c'est l'homme sans qualité au sens de disait l'écrivain Musil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bon, vous parlerez très bien, j'imagine, de sa musique et de son rap, mais ce qui est clair, c'est le personnage qui séduit. C'est que le gars dégage une sympathie et une positivité absolument sans égale dans le rap français. C'est-à-dire qu'on est très loin, justement, d'un Lacrime, d'un Rof, des gangsters de studio, alors que le type est certainement à une street crédibilité beaucoup plus grande que ces mecs-là, parce que lui, ça. Il a réellement un manager qui s'est fait buter. Lui, il était réellement managé par des gangsters. Lui, il s'est fait réellement dépouiller de tout son fric. Voilà. Et il s'en est sorti la tête haute, c'est-à-dire qu'il s'en est sorti. Il a abandonné tout son argent. Le mec, il ne sait pas remplir un cachet SACEM. Il ne sait pas toucher un truc, rien. Donc, il y a des mecs qui s'occupent de lui. Et finalement, c'est ses copains d'enfance parce que les autres, il n'y croit plus. Mais la sympathie, l'espèce de bonté, de naïveté que le mec dégage, en fait une espèce de héros bisounours de télé-réalité. Là-dessus, il pond toutes ses musiques tout seul, il en fait 12 par jour, donc on voit le résultat, effectivement, d'accord. Mais il peut pondre très vite et parfois n'importe comment. Mais justement, c'est ce côté Danse des Canards qui fait des parodies, lui, sur Internet, qui marche aussi, parce que la Danse des Canards, ça plaît à qui ? Aux gamins et aux mamies.
Exact.
Et Jules, quand tu vois son visage tout rond, il plaît à qui ? Il plaît aux minots de 8 ans et aux grand-mères. Moi, je prédis à ce garçon un destin mythique.
Y a ce qu'il faut dans la porte, y a de quoi leur faire peur. Y a ce qu'il faut dans la porte, y a de quoi leur faire peur. T'es costaud, mais à quoi ça sert ? Y'a les petits du check qui branchent ta sœur. Tu te mêles dans des affaires, tu te prends pour un braqueur.
Authentique, c'est l'authenticité. Ouais. Et c'est ça que les gens
cherchent. C'est le symbole du no-filter, en fait, quoi, je pense. Quoi, vraiment, quoi.
C'est typiquement
ça que les gens, ils sont toujours no-filter. C'est exactement ça. Ouais. Musicalement, c'est no-filter.
C'est un gars comme les autres.
Il réfléchit pas. S'il y a un truc qui lui passe par la tête, bah, il l'écrit, ça fait un morceau dans la journée. Et puis, voilà, quoi.
Le rappeur en claquette. Donc, il se définit comme ça.
Bon, voilà, c'est comme ça. Après, musicalement, il se passe pas grand chose. Ça veut pas dire que parce qu'on se prend pas la tête qu'il faut pas être exigeant. Après, c'est une manière de voir les choses. Il y a des gens qui préfèrent, en fait, s'identifier à ce qu'ils achètent et ce qu'ils consomment, d'autres qui veulent juste avoir de la qualité. Quoi.
Il réunit les deux. Au final, il réunit les deux.
Bah non.
Vu les ventes, c'est que tu as les mecs qui sont là, le petit kéké, si tu veux, ou le mec de Marseille qui entend ça au quartier, bah, il va te l'acheter. Tu as l'autre mec qui l'entend ici, qui se dit un gamin même de 15-16 ans, ce que tu veux, mais qui s'identifie un peu au truc. Ah là, je m'en bats les couilles. Il va l'acheter. Et de l'autre côté, t'as l'autre qui va dire « Ouais, mais c'est drôle. En fait, regarde toutes les conneries qu'il balance, c'est drôle qu'il va l'acheter. » S'il a fait autant de ventes, c'est qu'il n'y avait pas que les mecs de rue et il n'y avait pas que les mecs qui prennent ça au second degré.
C'est
qu'il a réussi à réunir un peu le tout et que tout le monde le trouve authentique au final. C'est que tout le monde dit « Ouais, bon, bah, ça passe. »
C'est comme Marc Lévy dans la littérature. Enfin, le mec vend des livres et c'est quand même mauvais. Mais tout le monde le lit, on le voit partout. Voilà, et c'est
c'est
la même chose.
C'est confortable, en fait.
Le Duc lui a même dit, même respecter le truc. Quand on lui a demandé 2 semaines avant la sortie de son album, qui tu penses qui va être premier, il fait, celui qui peut me battre, Jules.
Extraordinaire. Bon, eh ben très bien, c'était Jules. Après cette longue séquence consacrée au rap français, comme à chaque fois, nous allons parler de musique. On fait cette blague à chaque fois, mais je l'aime bien. Avec les albums américains. Et le premier est l'événement du moment, Anderson .Paak, Malibu. Alors, Mo, tu l'avais repéré sur le dernier album de Dr. Dre, Compton.
Ouais.
Du coup, tu avais repéré ce rappeur qui était sur pas mal de titres, je crois, que Compton.
Oui, sur 6 titres, exactement.
Voilà. Et donc, là, maintenant, il passe au long format à son premier album.
Deuxième.
Non, c'est pas son premier. Troisième. Troisième, quatrième.
Troisième. Il y a un premier qui est sorti qui s'appelle Venice. Le second, j'oublie le nom, c'est... en fait, c'est une collab. C'est pas vraiment un album à lui solo. Et il y a le troisième, si on peut dire, Malibu. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. Alors cet album,
Malibu,
il a beaucoup d'influence. il a toute la Californie en influence, que ce soit du rock'n'roll des années 70. Par moment même, ce qui m'a choqué, j'avais l'impression d'entendre du Led Zeppelin ou du... Après partir sur du Blink 182, je fais ouais, qu'est-ce qui lui arrive à ce mec-là? Ou des Beach Boys carrément à un moment. Et après on part sur de la soul aussi d'LA, on reconnaît ouais. vachement la touche LA. T'as du... un moment, t'as du George Clinton, parce qu'on part dans de la funk aussi. Et il y a une autre influence qui m'a bien fait marrer, qui vient de Londres. Un style à la Marsha Ambrosius qui est aussi sur l'album Compton, sur plusieurs titres, qui est signé chez Aftermath, chez Dre, mais qui est à la base une fille qui vient du groupe Floetry, qui sont compositeurs, auteurs, qui ont écrit même un morceau pour Michael Jackson, pardon. Et un morceau entier. Mais bon, bref, on sent ses influences par rapport à celle-ci, qui, sur la façon de chanter, et quelquefois sur du Kendrick Lamar. Mais au final, si je dois donner mon avis aujourd'hui sur lui... Oui. Ça s'écoute, ça s'écoute. Il y a beaucoup de, au niveau de la musique, instrumentalement, c'est bien.
Ça s'écoute franchement bien.
Mais il n'y a pas de fond au niveau de ses textes. C'est vraiment pas profond. Il y a assez... Et je peux pas le comparer à Kendrick totalement, parce que Kendrick est beaucoup plus saisissant. Kendrick est beaucoup plus intense sur les textes, alors que lui, non, ça reste léger quand même. C'est cool. C'est même limite un peu hippie.
Bah pour moi, c'est pas un défaut. Alors, la Brax, toi qui...
Bah moi, j'ai trouvé que c'était un album parfait pour commencer 2016 avec un petit peu plus d'espoir, quand même. Parce que enfin, tout est un peu triste en ce moment, c'est sur la fin de l'année. Et moi, en fait, j'ai trouvé que c'est un album qui va avoir une utilité pour beaucoup de gens. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de culture du R&B des années 90, je pense que c'est un album à parcourir et à analyser pas mal. Au niveau de toutes les influences en fait, qu'on peut y retrouver, j'ai eu le sentiment en fait, d'avoir des évocations de plein de noms en fait, que j'aimais écouter à l'époque. Bah, que ce soit des influences un peu à la Q-Tip... The Roots. Des producteurs comme High Tech. D'Angelo, même des fois ils sonnent comme D'Angelo, Bilal, tout ça. C'est un amalgame parfait en fait de toutes ces influences-là. C'est vrai que c'est drôle que Mo parle de Kendrick Lamar parce que c'est un peu le sentiment que ça m'a donné en fait aussi, cette capacité en fait à restituer tout ce qu'il y a de bon dans une culture collective, mais au niveau du R&B, pas dans le rap. Donc du coup, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans l'album. J'ai trouvé qu'il y avait des tubes absolus aussi dans ce morceau. Un morceau comme Am I Wrong. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression. I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards are falling. C'est génial, enfin, c'est un morceau.
C'est le signe de l'album. Ouais.
Ouais. Voilà, on a parlé, on a c'est dit que par exemple de Daft Punk là, c'était Get Lucky, était un tube. Enfin, vous écoutez les deux la différence. Voilà, il y en a un qui est super étriqué et ça, c'est un morceau qui est ultra large, très qui est ultra puissant. Enfin, bon, voilà, pour moi, c'est un grand album.
Mike.
Ouais. Bon, moi, ce genre d'artiste, tu sais, qui mange un peu à tous les râteliers, qui vont partout, mais ils vont nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti avec lui. Un peu de funk, un peu de rap, un peu de soul, un peu de tout. En fait, le gars, il se cherche, tu vois. Musicalement, il est très fort, mais au niveau de son identité, je trouve que ça va un peu dans tous les sens. Tu vois, et tu t'y retrouves pas. Le mec, il rappe, ok, après, il revient. Mais il faut qu'il se recadre un petit peu, je pense, pour sur un prochain album, qu'il se recadre un petit peu pour faire kiffer un peu plus.
C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Moi, je pensais que vous alliez adorer ça, parce que moi, je vous avoue, j'ai pas énormément écouté, aussi, mais j'ai pris mon pied. Parce que, et je comprends bien toutes les références, tout ce que vous dites est juste, c'est de la belle ouvrage à l'ancienne. C'est de l'album de Zico.
C'est au goût du jour.
Le début de Celebrate, je veux dire, tu pleures de joie. T'as les drums, t'as la basse qui est nickel, c'est en place la guitare. Pour moi, c'est une ode à la musique noire, mais de tout temps.
C'est grossier.
C'est l'immortalité de la musique noire. Mais
c'est
peut-être,
grossier.
Peut-être.
C'est grossier.
Moi, j'ai pris mon pied. Moi, franchement, moi, j'ai pris mon pied. Il y a un plaisir, t'as un kiff. Et alors, surtout quand on sort des 6 ou 7 albums qu'on vient d'évoquer. Tu vois, j'ai dire, t'es quand même. T'as un plaisir de musique. Tous les gens dont tu parles, D'Angelo, Bilal, tu vois, pourquoi on les aimait. Il y a un plaisir de la musique, du son, tu vois, c'est beau. Je trouve qu'il n'y a pas de morceau faible, ça s'écoute.
Il y a très peu de déchets aussi.
T'as envie de l'emmener en vacances, il n'y a pas
pas de déchets. Enfin, pour moi, c'est un pied total. Maintenant, ouais. J'entends bien ce que vous dites, Lama.
Ah ben moi, je suis d'accord avec toi et la Brax. Hein. Mais je retiens ce que tu dis à la fin, de l'emmener en vacances. Mm. Pour moi, c'est un vrai album de vacances. Tu vas écouter voilà. Quand tu vas bien.
C'est léger. Voilà.
Léger, ça s'écoute
ouais, mais
bien.
Mais c'est bon, les gars, c'est bon.
Mais je suis d'accord avec toi. Alors, et je finis juste ce que je suis en train de dire. Et effectivement, comme a dit la Brax, c'est quand même agréable, après tout ce qu'on a pu écouter dernièrement et tout ce qu'on a pu endurer dernièrement dans nos vies, d'avoir quelque chose d'un peu léger, d'agréable, d'avoir un patch, d'avoir un patchwork et bon, et quelque chose de vraiment... Il a une bonne voix, il a une belle voix, il maîtrise... Mais oui, mais je suis désolée.
Ouais, mais attendez, on n'est pas d'accord. T'as écouté l'album Venice ?
Oui, je l'ai écouté.
Ok, tu mets Venice et Malibu, lequel tu gardes ?
C'est trop dur.
Bah non, tu gardes pas Malibu et tu le sais.
Mais oui.
Clairement, tu le gardes pas, Malibu.
Mais oui, mais Venice, c'est meilleur. Venice,
t'entends déjà
meilleur.
Toute sa couleur à ce mec-là, tu sens sa couleur musicale. Hein.
Mais Malibu est très bon.
T'es halluciné. Tu l'écoutes et quand il part dans du hip-hop, il part dans du hip-hop qui est. C'est pointu, limite. C'est pointu. Et tu vois qu'il y a même trois prods, je crois, qui lui appartiennent dans le truc. Là, c'est ouf. I'm far from a pimp, but I'm close to you. You're fucking with an old soul, twice removed. My pops used to work up on the fighter jets. Maybe that's the reason I'll be through. Now, who the fuck called me a player? These young niggas out here sweating for a pay stub. I'm a coach. I'm gonna teach these bitches how to lay up. Non, franchement, c'est que je peux pas réécouter son album, celui-ci, comme j'ai pu écouter Venice.
D'accord. Ok, mais ça, genre, moi, je connaissais pas Venice, en fait. Voilà. Alors, on passe au suivant. Pusha T, Darkest Before Dawn. I drops every blue moon to separate myself from you kings of the YouTube. I am more YouTube. I am like Bono with the edge. In Mexico, fuck Donald and his pledge. Legend has it, the wrist is magic, the left is Patek Philippe's replaced by Matsuhisa. Ignore most requests for the feature, unless it's getting played on the beach in Ibiza. Why she fucking Nisha, and she sucking Shisha.
Yes, Pusha T, alors ex-membre du groupe Clips, The Clips, avec son frère jumeau Malice. Ben moi je l'ai repéré à l'époque, hein, avec The Clips et le morceau Grinding. Produit par Pharrell Williams. Donc c'était ces deux-là, ils étaient vraiment trop chauds, comme on dit dans le jargon. Ah, ils étaient très très forts, voilà. Donc deux jumeaux, donc déjà l'image, hein, toujours moins important l'image. Ça claquait et puis après avec le flow là, les passe-passe et tout. Et donc voilà, le voilà maintenant sur Good Music de Kanye West en solo. C'est un album, 10 morceaux, d'accord, dont une intro. Donc déjà ça m'a énervé, parce que le mec il nous a fait un maxi avec ses potes et puis il dit c'est un album. Donc déjà il nous a eu. Mais au niveau des prods, j'étais pas du tout déçu. Très très fort, très très fort au niveau des prods et au rendez-vous au niveau de son flow aussi, n'a pas changé. Donc voilà, apparemment c'est une prélude à un prochain album. Donc ce qui explique les 10 morceaux. En revanche, donc dessus...
À un moment, tu vas nous dire si c'est bon ou tu nous fais...
Non, mais...
Vas-y.
Il y a pas mal de bons producteurs dessus. Timbo, Kanye West, J. Cole... C'est un bon album. Très bon album. Mais il y a quelques foutaises quand même. Comme par exemple cette prod. C'est une prod, je crois que c'est Timbo qui l'a fait parce que ça peut pas être autrement. Got Him Covered. The flow plays limbo, courtesy of Timbo. Strip it down, nigga Jim Joe. I build it better, nigga tenfold. La Ferrari from the Enzo. The stencil inspired by Kenzo. The roof is like Ghostface, can it be so simple? 40 keys in a rental. My dogs bring it back, now you name a better kennel. I keep cash, case fence, connect me. Case kids kidnap me, kids can get back me. Alors ça c'est abusé, hein. C'est une cymbale, une corde à linge et je sais pas, un tuba. Non sérieux, c'est trois trucs. C'est affreux. Je sais pas comment il arrive à poser dessus parce que c'est décalé en fait.
Bah, c'est ce qu'il fait souvent. Bah, quand on l'a connu sur Grinding, c'était la même chose. C'est quand t'entends le mec qui tape sur sa joue, tu vois Pharrell qui tape.
C'est carré.
Tu dis, mais c'est des extraterrestres.
C'est carré. Non mais c'est carré Grinding.
C'est vrai. Mais après c'est Pharrell.
Mais en tout cas non, très très fort, très très fort. Très bon morceau aussi, Money Pussy Alcohol.
MPA. Déjà bon titre.
Alors, feat de ouf. Hein. J. Cole, Kanye West et The Dream. Ouais. Mais je sais pas comment il a exploité le truc. Mais t'entends The Dream juste à l'intro. Et Kanye West et même Azaproki, j'ai oublié aussi, sur le refrain ensemble. Mais un petit refrain à 8 mesures. Hein. Money, pussy, alcohol. You niggas pussy after all. Money, pussy, alcohol. You niggas pussy at it all. Yeah.
drugs. I had a dream, I had it all.
Donc je trouve qu'il a mal exploité le featuring. C'est
un
peu du gâchis.
Il aurait pu donner un truc plus tentaculaire. Enfin,
voilà,
partir
un,
sur
truc
un truc beaucoup
plus massif, hein, qu'on puisse bien kiffer 3 minutes 30 ou 4 minutes.
C'est qu'il y a ouais, payer de... les fans, quoi. Là, tu payes le pas problème, les fans. Quand tu mets un featuring comme ça et que tu les entends sur 8 mesures...
J'ai regardé, les gens sont déçus de fou. Bah ouais, ils ont mal exploité le featuring.
Il y a un manque de maestria dans cet album-là. Parce qu'il aurait pu en faire un truc de malade. Mais je suis resté là, c'est... Tu sais comment dire, c'est que ce mec-là, techniquement, ce qu'il écrit, c'est fort. C'est très, très fort. Et c'est pointu.
C'est un poète.
Le mec, il fait des mathématiques limite quand il écrit des trucs. En partant de son personnage qui est le pusher, qui est, on l'expliquera jamais assez, mais on sait tous ce que c'est.
Le dealer.
Voilà.
Ouais, c'est un dealer très, très,
très pointu, parce qu'il t'envoie d'abord sur une certaine drogue qui va te ralentir et il dit attends, je sais ce qu'il te faut pour te remettre un peu bien. On va partir sur l'autre qui te remet.
C'est le sommelier de la drogue, quoi.
Voilà, qui va toujours te pousser. Il a une maîtrise de ses textes, il a des calculs, c'est que c'est monstre. Là, je pense à Numbers on the Boards, qui était sorti sur le précédent album, toujours produit par Kanye. C'était ouf. Et là, c'est vrai que quand il parle de l'histoire de corde à linge, tout ça, j'étais là, c'est pas abouti. En fait, c'est que c'est pas abouti. À la fin, c'est ce que je me suis dit. Il manque quelque chose encore.
Non,
pourtant, il mérite beaucoup.
Il y a 3-4 petits trucs comme ça, mais sinon. Bon, c'est vrai que sur 9 morceaux en même temps.
Mais c'est un prélude. C'est un prélude, comme tu l'as dit. En fait, il nous donne des petites miettes pour nous dire attention, ça va arriver, quoi. Ouais. Et ces petites miettes sont quand même.
C'est quand même un album. T'as raison, c'est peut-être un bon calcul.
Et je sais pas si vous avez regardé le court-métrage qui est associé avec l'album, qui dure une vingtaine de minutes. T'as pas vu qui explique un peu l'univers un peu dark de l'album, où en fait c'est l'histoire de mecs qui sont en train de vendre de la drogue et qui se font poursuivre par des flics. Donc c'est toujours une histoire de drogue, hein. On l'a dit, hein, Poucha. Et qui en fait à un moment il essaye d'échapper à la police et il va rencontrer le diable. Et il passe un pacte avec le diable.
Comme Robert Johnson.
Ou comme Faust. Comme Faust.
Voilà. Il passe un pacte avec
comme
le diable. Et donc, je vous laisse regarder le clip parce que si vous ne l'avez pas vu, pour le découvrir, parce que c'est vraiment hyper bien fait.
C'était ton arme
secrète.
C'est intéressant.
Je l'ai vu. C'était pas la vie de Lama au Liban. Non, je plaisante.
La Brax, pour conclure.
Moi, je ne suis pas sûr que c'est un album qui va être super remarqué en France. Parce qu'effectivement, Pusha T, c'est un très bon écrivain. Après, la réalité, c'est qu'en France, la moitié des gens qui écoutent du rap américain, ils savent pas de quoi ça parle ou ils savent pas ce qu'il dit.
Ne comprends pas.
C'est voilà. Donc ça règle le truc. Après, c'est vrai que moi, c'est la première moitié de l'album, j'ai traversé. En fait, je lisais autre chose sur internet, etc. Ça m'a pas sorti la tête de mon SoFoot, de mon article sur Facebook ou quoi. J'ai dû attendre en fait quelques morceaux. Le gros morceau phare en fait, Crosses and Caskets. Qui est génial.
Crutches, crosses, caskets. All I see is victims. My young niggas sick 'em. I don't get 'em. I just get back the jury if I'm fucking with 'em. Your man crush Mondays, be owing niggas. My skin is triple black, I'm the omen. You can't kill a god like the Romans.
Mais un morceau par contre qui m'a halluciné, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, c'était Keep Dealing.
Continue à dealer.
C'est un featuring, donc le mec rappe, déjà l'instru est super bien, enfin le son est grave lourd.
Il y a un feat dessus, non?
Il y a un feat dessus. Au début, je commence à m'arrêter, et pendant 2 secondes, je me dis, mais est-ce que c'est la voix de Method Man, etc. Un mec qui parle avec une voix grave,
c'est les gars de l'institut de Method Man.
C'est qui c'est? Benny Siegel. Big said only the feds I should fear. So no threat beyond your steps with the whole hood there.
Oh
gars, Jay-Z, ça fait 15 ans, je le vois sur les lignes de featuring dans les albums. À chaque fois, c'est la track que je sais que je vais pas écouter de l'album. C'est la première fois, je suis là sur le cul, je me dis putain, c'est quoi ce couplet de ouf, quoi. Et je vois, c'est lui, quoi. Il l'a fait revenir, je sais pas ce qu'il lui a fait.
Tu t'es rappelé sa bonne époque à Benny Siegel.
Ah, mais Joe, les gars, Jay-Z.
En même temps, ils vont bien ensemble. C'est que si tu suis l'époque de Benny Siegel où il était chaud dans Rock Affair.
Non, mais il a commencé sa carrière en même temps que Jay-Z. T'en as un qui est multimillionnaire, t'en as un, il sort de prison.
Ça veut dire
qu'il est pas bon, quoi.
Oui, mais justement, là, un servi à l'autre et vice versa, je pense.
Non, mais ça, c'était vraiment un truc à signaler aussi, quoi. C'est en tout cas une des premières fois pour moi que Benny Siegel fait une intervention remarquable sur un album, quoi. Donc, voilà, quoi.
Eh ben, merci. Lama doit nous quitter.
Je suis désolée, amis.
Bon,
elle va continuer sa vie de dealer.
Voilà.
Faut aller coucher.
T'as des gens à servir, t'as un peu
Keep
du monde
dealing.
À faire. Merci Lama, à bientôt, au mois prochain. Lourd, balourd. Notre rubrique préférée. Alors, dans la série Lourd Balourd, Aurel San featuring sa grand-mère, j'essaye.
J'essaie de faire de mon mieux et je m'ennuie quand tout devient.
J'allais dire des insultes,
lourd.
Je préfère dire.
Moi, je dis lourd, je m'en fous.
Lourd. Sa grand-mère, elle pose vénère. Vénère.
Bon, ouf.
En plus, surtout, il y a l'innocence de la grand-mère, tu sais.
Ouais,
quand
ça
elle pose,
rafraîchit, je trouve.
Ça, c'est sain. Mm. Tu vois, quand elle chante, c'est sain. Bon, même, il a dû lui écrire et tout.
Ouais, bien sûr.
Mais ça apporte un truc vraiment différent, tu vois. Et je la trouve plus intéressante qu'Aurel Salmon.
Moi, je cautionne pas
avec
tout
son
ça.
Mais on dit OK pour...
Non, moi, je dis...
Alors, Lama qui était partie est revenue pour l'occasion.
Je dis juste un truc parce qu'elle était dans... Je ne sais pas si vous avez vu Comment c'est loin.
Non.
Vous n'avez pas vu le film?
Ah non, on l'a pas regardé.
Bah, allez le voir.
Je sais pas. Moi,
vraiment,
pas trop.
Si, allez le voir parce que c'est, ils sont bien ces garçons, Aurel Salmon.
Je suis d'accord.
Et la grand-mère est dedans.
Ouais, ah, oui.
Et donc c'est hyper agréable d'avoir déjà fait jouer sa grand-mère dans ce film et d'avoir fait derrière un clip avec elle.
Franchement,
c'est juste pour l'instant.
Ça n'a jamais été fait.
Moi, je lui poserai une question.
Moi, je lui poserai une question
parce qu'il a fait un coup. Il s'est dit, ces gars, ils vont faire un lourd balourd et vont parler de ma grand-mère. Mais comme ils vont pas s'attaquer à ma grand-mère, ils vont tous dire lourd. Moi, je dis...
Non, non. Bah, moi, j'ai pas vu le film. Je suis sûr qu'il est bien, parce que j'adore les casseurs
flotteurs. Ça fait partie de la bande. Enfin,
c'est des bons gars, et je pense que le film est bon. Là, par contre, j'ai pas du tout aimé. Je trouve le morceau tout pourri.
Juste le refrain, il est bien.
Par contre, l'idée d'enregistrer sa grand-mère, et là, je m'adresse à tous les auditeurs du Mike et l'Enclume, il faut absolument
le
enregistrer
faire.
Sa grand-mère.
Non, mais vous êtes sérieux,
hein? Il faut enregistrer sa grand-mère.
Vous êtes sérieux?
Non, je suis sérieux. Mais l'enregistrer... Sur tape, tu vois, pour l'avoir, sûrement, avec un bon micro, t'enregistres ta grand-mère, ton grand-père, parce qu'après, elle est éternelle, comme
Oui,
tu lui donnes la vie éternelle. En général, dans la vie, il faut enregistrer sa grand-mère. De là, en faire un morceau pourri, je suis
merci.
Pas sûr.
Merci.
On vient de défendre Jules sur son...
Ouais,
sur
sa non, c'est pas la même chose, là.
Bah, attends, laisse-moi finir. On dit, on respecte, pas la candeur, mais un petit peu l'état d'esprit, j'y vais la fleur au
exact.
Fusil, et machin, mais et là, il
c'est
fait venir
ça. C'est pas Orelsan, la candeur, là, c'est qu'il invite quelqu'un.
Mais sa grand-mère, elle apporte ça, elle est dans cet esprit.
Si t'avais écouté le morceau sans savoir que c'était sa grand-mère, t'aurais pu kiffer le refrain ou pas?
Non. Là, t'es pas sérieux.
Moi, j'aime bien le refrain.
Moi, j'aime bien aussi.
Tu peux me dire ça à moi dans les yeux, on se pose au calme.
Le refrain, il est bien ou pas?
Oui, il est bien son refrain.
Je savais pas que c'était ce morceau-là qui allait provoquer la première tentative de baston. Ok, merci. Alors, Mia, ce qui est vraiment la bonne fille du R&B, elle a un nouveau morceau sur la crise des migrants, sur les migrants, avec un clip carrément balèze. Et dans ce clip, elle s'affiche avec le maillot détourné du PSG. Au lieu que ça soit Fly Emirates, c'est Fly Pirates.
Freedom, item, meet them, where's your freedom? This one is a brand new freedom.
Elle joue un peu quand même de son rôle de rebelle de service,
ouais,
des fois.
Exact.
C'est Milou, toujours ce qu'on dit des rebelles. Alors que si on parle de gros boulets de coke, on dit c'est pas bien, les mecs sont pas concernés. Et dès qu'il y a quelqu'un qui l'ouvre un peu, qui parle de truc, on dit ah ouais, c'est la rebelle de service.
Pourtant,
c'est trop facile.
Dans son précédent clip où elle avait fait monter des femmes voilées qui faisaient des cascades, c'était réel le truc. Elle aurait pu ne pas oser ça parce que ça lui rapportait des problèmes et ça lui en a rapporté derrière. Elle ose faire les choses. Donc on peut pas dire c'est une fausse rebelle là où elle aurait eu des problèmes et toutes les femmes qui étaient avec elle dans le clip auraient pu avoir des problèmes aussi.
Et puis là, il y a le PSG d'ailleurs. On comprend même pas pourquoi les mecs s'énervent.
Ils
on le voit une seconde.
Rien.
Une demie, le maillot, quoi. On le se voit une seconde et demie dans le clip.
C'est parce qu'ils ont peur du détournement qu'il y aura après.
Exactement.
C'est qu'il y a d'autres mecs qui vont oser faire ça, se faire floquer des trucs comme ça, détourner le truc.
Mais en même temps, il est lourd. Hein.
Il est lourd.
Fly Pirates, moi, je le mets.
Ah oui,
exactement. Donc, ok, donc le clip, pas trop, mais le maillot, vous êtes
là, certes, entendu.
Ok.
Maillot lourd.
Après Chirac, Spike Lee diffuse sur Showtime en fait un documentaire sur Michael Jackson, The Early Years, puisque ça s'appelle Michael Jackson Journey from Motown to Off the Wall. Donc il s'arrête avant Thriller, avant le carton, il s'arrête à l'album Off the Wall. Personnellement, c'est mon préféré.
Lourd. Dès demain, j'applaudis. Lourd, forcément. Déjà, le premier docu de Spike Lee sur Michael Jackson était génial. Voilà, là pour une fois déjà, je suis content que Spike Lee fasse du documentaire parce que j'en avais marre de ses films, je trouve que c'était pas bien.
C'est sûr.
Et voilà, je sais que dans l'exercice il est bon, donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné, quoi.
D'accord.
Puis le trailer est pas mal, hein.
Le trailer est bien.
Des images que j'avais jamais vues. Franchement inédites de Michael sur scène et tout. Parce qu'on est toujours les mêmes, hein, sur
c'est
YouTube,
toujours les
partout.
Mêmes, toujours les mêmes.
Et là, c'était franchement des angles différents et tout. Et ça peut apporter.
Les anecdotes,
et
je
puis
pense que
le noir à l'époque, ça fait hyper plaisir. Il est frisé.
C'est Michael, un gars, il sera jamais mort.
On voulait tous s'habiller comme lui.
Le courrier des auditeurs. On vous l'a dit, vous pouvez écrire au Mike et l'Enclume. L'adresse contact est sur le site d'Arte Radio. Donc, nous avons une série de questions proposées par les auditeurs et nous prendrons le risque d'y répondre, de faire des pronostics, de se planter et d'être ridicule. Alors, Franco est un rappeur camerounais à qui l'on doit
coller la petite qui fait un carton mondialissime, enfin en tout cas du Mali jusqu'à Skyrock.
International, on peut dire.
Récupère la petite, angoissez la petite, embrouillez la petite, et maintenant collez la petite. Collez, 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 collez la petite.
Est-ce qu'il y a une place en France pour un genre un petit peu afro-urbain, ou est-ce que ce sera un petit effet de mode comme on avait connu avec Magic System? C'est la question que nous pose un auditeur anonyme.
Moi, perso, je pense que ça va être beaucoup plus qu'un phénomène et que c'est déjà même déjà bien installé.
On a parlé la dernière fois de Kif No Beat, qui sont des rappeurs de Côte d'Ivoire.
Un groupe de rap ivoirien qui marche très très fort dans toute l'Afrique et qui prépare même tourner en France déjà.
Coller la petite, c'est énorme. Coller
la petite, hit single de Franco, donc Tamerounais.
C'est tout con, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Et voilà, donc,
il y a Malox aussi.
Malox, mais Malox, c'est pas encore. C'est en train de monter.
C'est en train de monter.
Il n'y a pas le niveau de Franco, parce que Franco est quand même allé chez Koé déjà faire son live. Il passe il est en playlist sur Energy. Il est sur Skyrock, il tourne.
Mais Malox, le mec, aussi, là. T'as pas vu?
Il est rentré sur Energy.
Ben oui, mais ils ont pas. Même à la télé, il y a le clip là qui tourne maintenant. Sur iTunes, le gars, il y est. Sur Android, il y a aussi, j'ai fait ouais, donc non, ça monte en plus voilà, depuis septembre.
Ça va très vite et je pense pas que ce soit dans un petit phénomène. Ça va aller de plus en plus parce que c'est vrai que la musique africaine maintenant
elle a changé, elle s'internationalise.
Elle s'internationalise et puis les portes se sont ouvertes.
Sur il y a un documentaire sur Arte Radio qui avec des musiciens du Cap Vert où il y a Didier Awadi de Positive Black Soul et il dit en fait pendant des années on a essayé de vendre aux États-Unis, on a essayé de vendre à l'international et il dit maintenant le marché africain est un peu stabilisé en tout cas professionnellement et il dit on n'a même plus besoin, on peut faire notre argent en Afrique.
Quand on dit ça, t'avais à l'époque Michael Jackson quand il disait Mamacé Mamakosa et qu'il prenait ça à Manu Dibango à l'époque, c'était déjà là en fait. Et plusieurs fois, on a eu quelques fois des petits rappels comme ça qui revenaient un peu à gauche à droite. Soit l'été, il y a un petit tube qui tombe et là, il y a un petit truc. Là, c'est vrai que ça arrive un peu plus en masse. C'est juste un retour aux sources. Dans le rap, on a toujours eu des termes comme ça qui sont venus, qui étaient en fait quelquefois des mots qu'on entendait en Afrique, par exemple, qui viennent souvent du Bambara ou qui viennent du Djoula en Côte d'Ivoire, qui ont été mixés avec des mots français qu'on entend par quelques rappeurs. Des trucs, des batrafok et je sais pas quoi, et j'en passe à des mères.
Des yafoy, il n'y a pas de drap.
Voilà, et ces mots-là ont déjà été introduits. Et là, aujourd'hui, par exemple, on a un phénomène qui se fait par un rappeur MHD, qui en l'occurrence fait l'afro-trap. A balancé plusieurs vidéos, là il en est à la cinquième. La cinquième, il y a 2 millions de vues, il y a eu 1 million en l'espace d'une semaine.
On reconnaît les babous, on reconnaît les bâtards qui parlent que par intérêt. Enfoiré tout penser de peur, apprends que ma fée il est tout terrain. Qui veut la bagarre, envie ta tenue mon gars, place au combat. On chipote pas, tu payes en test, ton bon qui va gérer mes vêtements. Et ma ça tu vois les mecs de la rue, je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu.
Le mec, il te
MHD.
Il te met de l'afrobeat derrière et c'est plutôt un peu plus du coupé décalé dans le truc. Et le mec, il trappe dessus et c'est vraiment bien. En plus, il est jeune et il y a une certaine maturité qu'on ressent au fur et à mesure.
Ce qui peut nous amener à croire que ça va multiplier, c'est simplement qu'il y a plus de moyens de diffusion. Avant, où tu avais un silo qui se faisait entre l'Afrique et l'Europe ou les États-Unis parce que chaque scène était indépendante des autres et ne pouvait pas forcément communiquer l'une avec l'autre. Parce que s'il n'y avait personne qui venait d'Europe pour aller chercher des musiciens africains ou des musiciens africains qui... Voilà, physiquement devait faire succès en Europe. Là aujourd'hui avec Internet, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc du coup, la fréquence en fait de morceaux qui peuvent venir d'Afrique pour faire un hit en France peut aussi en fait potentiellement. Il y a aussi des moyens qui permettent techniquement en fait au marché d'être inondé et de mieux communiquer. C'est-à-dire que les choses qui sont les meilleures arrivent de toute manière à destination au bout d'un moment quoi et plus vite.
Oui, c'est vrai. Mais si on doit parler de musique urbaine afro à proprement dit, parce qu'il est question de musique urbaine.
Oui. Parce qu'il n'y avait pas...
Ce que je veux te dire, c'est que la musique urbaine africaine a tellement évolué maintenant. Parce qu'à l'époque, par exemple, en Côte d'Ivoire, les rappeurs, c'était des gars comme Dizzy Champion. Le rap, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était vraiment à milieu, tu vois. Pourtant, il y avait le net et tout.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une internationalisation qui joue dans les deux sens. Ouais. Par exemple, il y a un artiste que, bon, moi, je trouve pas si formidable, à part la hype, qui s'appelle Petite Noire. Le mec, il fait de la cold wave. C'est un Africain d'Afrique. Mmh. Il fait de la cold.
You take me under. I really wanna go. You wanna be my lover. Don't
Pour qu'un Africain d'Afrique se mette à faire de la cold wave,
ouais, c'est surtout un genre aussi isolé,
dépressif, tu vois, des années du début des années 80, faut le faire. Mais c'est plus du tout surprenant parce que le mec, il est sur le web et si ça se trouve, il a kiffé là-dessus, ça correspond à son style, à son mode de vie, à sa personnalité et pourquoi pas. Donc je pense qu'il va y avoir des croisements, des métissages de plus en plus intéressants et surprenants. Comme après tout, quand les gars de Détroit ont découvert Kraftwerk. En tout cas, on commence 2016 sur une note beaucoup plus positive qu'on a fini 2015, hein, avec oui, non seulement des bons albums, mais de l'espoir de retour aux sources. Merci beaucoup, messieurs. Merci à la main qui nous a quittés précipitamment. Merci à Maud de t'y quitter.
Aga.
Merci à la Brax.
Bien sûr.
Merci à Mike.
Parce que la vie est appris.
Prochaine émission en février. L'émission a été réalisée par Samuel Hirsch. Vive la musique, vive la radio.
Aïe.
Aïe.
Arte Radio.com